Bonjour et bienvenue dans Brasseur Podcast saison 4 épisode 12, la nouvelle stratégie.
Et oui.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous.
Après avoir parlé de la nouvelle marque et du nouveau brasseur.
Et du nouveau matos.
Et du nouveau matos, on va parler donc de la nouvelle stratégie, toujours en compagnie de Robin et Antoine. On va développer ça autour de trois axes. Le premier, c'est réinvestir le Morvan, le pays. La vente locale.
Exactement.
Puis en deux, innover et geeker. Et en trois, du volume, toujours plus de volume.
Voilà, monte le son.
Monte le son et générique.
Attention à la bouche !
Monsieur va peut-être nous offrir un verre.
Je peux avoir de bière ?
C'est pas ça.
Et vous buviez combien par jour ?
Ça, je sais pas. Je compte pas. Mal 40 ?
Signorina. Cappuccina.
Nouvelle marque, nouvelle brasserie, nouvelle stratégie, c'est parti. En premier lieu, continuer à développer la vente locale ici dans le Morvan.
Ouais, et même plus que continuer, je dirais réinvestir, c'est vraiment ça le terme.
Ouais.
Pourquoi réinvestir ? Parce que on était présent, on va dire, en local, forcément en s'implantant. C'était aussi un peu la stratégie quand on a décidé de venir à Brassy. Et on l'a un peu perdu de vue. L'année dernière, je dirais, en voulant faire des bières, en vendant pas mal à Paris, en se disant c'est un peu ce côté, le Morvan c'est bien l'été quand il y a du monde et des touristes,
ouais.
Et on a un peu perdu de vue justement ce côté local.
Plus le Château Perché.
Plus le Château Perché,
ouais.
Ouais, carrément le Château Perché, même si c'était un événement qui s'est passé dans le Morvan, ça n'a pas servi au local. Ni aux locaux, mais c'est un truc dont on a discuté assez rapidement tous les deux, et on était assez d'accord sur le fait que une brasserie doit quand même arroser autour d'elle, quoi.
Ouais.
Et c'est un truc, ouais, où je trouvais qu'il y avait quand même un peu un manque de sens d'envoyer que des bières sur Paris et de ne pas être présent
ouais.
Autour de nous, quoi.
Chose déjà que vous aviez un petit peu réalisé au moment où vous avez lancé les bières du pays, quand même, en disant tiens, nos bières de geek, entre guillemets, n'intéressent pas les gens ici, on va se retourner un peu là-dessus. Donc,
ouais, puis je pense que ça t'assure un peu une stabilité.
Carrément.
Tu vois, t'es au moins sujet à des coups de mode, hype et tout, ça peut partir très vite, quoi.
Ouais.
Tu dépends de moins de gros revendeurs. Et puis, en termes de livraison, forcément, c'est plus simple, quoi.
Enfin, ah bah, ouais.
Permet d'avoir un roulement un peu continu.
J'ai toujours qu'une Yaris hein, pour remonter du stock.
Ouais.
Oui, puis c'était l'idée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avant d'enregistrer, d'avoir des bières permanentes, quand même. C'était une manière de faire rouler la brasserie.
Quelle transition magnifique. Réinvestir le local, ça passe par ce focus sur cette gamme permanente. Avec l'assurance, en tout cas, on va essayer d'avoir du stock en permanence de cette gamme permanente.
Ouais. L'avantage qu'on a, c'est que on n'a qu'un format en bouteille, donc c'est quand même moins galère. Parce que quand tu as 33-75 centilitres, en termes de stock, c'est plus compliqué. Et après, bon, on a des fûts, mais bon, ça se gère, quoi.
Ouais.
Donc, gamme permanente en bouteille.
C'est ça, ouais. C'est on garde la bouteille, pas de canette pour ça. Et petite nouveauté quand même, on a envie d'intégrer une petite nouvelle, cette gamme permanente, en plus de la petite soif,
la cool,
cure,
ça.
La triple du Morvan et une IPA.
Ouais.
Okay.
Qui est très cool parce que du coup, avoir une IPA en permanente, nous on voit ça un peu, on voit cette bière un peu comme la porte d'entrée vers les canettes un peu plus geek, tu vois.
Ouais,
donc essayer de sortir des codes des IPA qu'on peut trouver dans certaines brasseries actuellement en local, tu vois. Et d'aller plus vers quelque chose de
qui nous
juicy, un peu sympa, quoi.
Oui, avoir une IPA permanente, c'est quand même assez dans l'ADN, je trouve, de Tip Sip.
Puis le truc cool avec une bière comme ça qui est permanente, c'est que tu peux geeker dessus en mode qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois, tu vois, même sans changer les ingrédients. Tu veux faire plus avec moins, et en fait tu creuses un peu ton process pour avoir la meilleure bière que tu peux avoir. avec ces ingrédients-là, quoi. Ouais. En restant dans des coûts maîtrisés, parce que forcément, ouais. ce ne sera pas des bières qui vont sortir à 5 euros, 6 euros, tu vois. Il faut rester un peu dans les réalités du truc. Mm. Mais du coup, c'est un défi, et le but, c'est de faire un peu plus de volume sur cette bière-là, quoi.
Et c'est intéressant, parce que c'est vrai que ça avait été un peu mis de côté en disant, bon, il y a la bière pour les locaux, et comme les bières du pays, c'était une réponse à le « Ah, j'aime pas tes bières, elles sont trop amères », c'était au début mis de côté, tu vois, le fait de faire une IPA dans les bières du pays.
Ouais.
Et pourtant, en fait, mais ça représente tellement Tipsip, et c'est tellement cette idée de faire quelque chose d'accessible, parce que en vrai, ça peut l'être. C'est pas forcément l'idée qui s'en font, etc., etc., mais à des prix raisonnables et avec un équilibre un peu plus maîtrisé, peut-être.
Et elle peut parler aussi aux brassicois, cette IPA, ou est-ce que c'est vraiment une sorte de manière de faire un peu une transition entre,
je pense que
entre les bières du pays et l'ADN ouais. Tipsip avec des...
Je pense que ça sera pas la favorite.
Ouais.
Par contre...
Il y a des pale ale qui avaient bien marché, hein, la première était à Brassy, tout ça.
Ouais, c'est clair. Et surtout, moi je le constate là au bout de 2 ans de présence dans le Morvan, les habitudes changent quand les gens ont passé un peu un cap. C'est-à-dire qu'au début, ils aimaient pas du tout... les Hoppy Pale dont tu parlais de ces premières séries, et à force d'en boire, parce que j'en offre un peu à droite à gauche, etc., c'est devenu les palais se sont un peu habitués, tu vois.
Ah bah oui, forcément, ouais. Bah, de toute façon, l'IPA, personne n'en buvait avant, quoi.
Ce n'est que ça, c'est sûr. Et du coup, il y a deux choses. La première, c'est que ça reste une demande d'avoir une IPA un peu classique qui puisse passer pour un événement ou un autre, qui puisse être aussi dans la gamme comme porte d'entrée, comme on disait tout à l'heure, et pas forcément aller sur une canette trop chère pour certains,
ouais.
Et qui change, où les codes changent totalement, tu vois. C'est... Là, on serait sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et on trouve ça hyper important. Et c'est un premier tournant, en tout cas, sur le fait d'appuyer cette gamme permanente et de la marquer comme étant quelque chose de primordial, presque, dans l'activité, quoi.
Ouais, moi, je trouve ça hyper cool qu'il y ait une IPA quand même en permanente. C'est chouette. Et puis, ça répond probablement aussi à une demande qui viendra peut-être plus l'été, de gens qui vont... C'est où il y aura du brassage aussi, dans les clients, où il y a des gens qui seront de passage, qui, eux, seront peut-être plus un peu plus intéressés par les IPA.
Et aussi, dans l'offre qu'on peut proposer, puisque réinvestir le local, ça veut dire aussi aller démarcher des nouveaux clients locaux, donc des bars, des caves, des épiceries, etc., qui peuvent aussi avoir un moment cette demande de leur clientèle à eux. Ah tiens, une IPA en bouteille, c'est pas le truc que tu sors tout le temps, mais voilà, un resto qui a pas forcément au final la possibilité de proposer ça.
Sachant que les canettes en resto, c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais, franchement, en local, si ta seule option en IPA, c'est une canette éphémère, les restos, ils seront pas chauds.
Ouais, c'est ça.
Et si on veut, et c'est quand même un truc qui nous anime pas mal, inciter les gens à ouvrir leur chakra sur les bières un peu plus modernes, etc., etc., et ben en fait, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire une bouteille d'IPA un peu plus, excusez-moi pour les notifications, un peu plus accessible, tout simplement.
Ouais.
Et en effet, ouais, la canette, c'était trop un frein, et c'était un peu illusoire de se dire, bon bah, si tu veux une IPA, c'est canette forcément, et du coup, en fait, ça ferme, on fait que fermer la porte et rendre le truc encore plus geek, encore plus exclusif, encore plus ah non, je vais pas aller vers ces trucs là, tu vois.
Et du coup, ça fera des fûts d'IPA, quoi.
Et en plus, ça fera des fûts d'IPA,
donc ça veut dire des permanent. Bars qui pourront potentiellement avoir ce fût là en permanent.
Ouais.
Et du coup, bah ouais, augmenter de volume, ça veut dire aussi pas appeler constamment des gens pour la dernière sortie de ta bière, et qu'il va falloir que tu les reconvainques de te prendre ta bière. Quoi. Si on peut avoir des clients un peu permanents, déjà acquis, c'est un confort aussi. Quoi.
Ouais. Les deux, encore une fois, c'est des restaurants, des caves, des bars dans le Morvan. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Mais paradoxalement, c'est pas que cette clientèle-là, mais c'est aussi réinvestir le local, c'est aussi faire plus de ventes directes. Alors ça peut paraître contradictoire parce que j'ai souvent dit il faut se concentrer sur le B2B, le B2C c'est pas grand chose, c'est beaucoup d'énergie pour peu de volume, etc. Mais en fait vu l'organisation qu'on est en train de mettre en place, le fait que toi tu sois tout le temps présent à Brassy, et bah on peut ne serait-ce qu'avoir des horaires d'ouverture. Ça, c'est trop cool. Et du coup, on va réaménager aussi l'espace boutique en conséquence. Et de mon côté aussi, il y avait cette volonté, là, on l'a fait récemment, mais ça va continuer, être plus présent sur le marché de Brassy et aussi investir un peu plus tous les événements locaux. Il y a un truc dont on peut parler aussi qui est là une... un partenariat, on va dire, avec le groupement des associations de Brassy pour tout simplement faciliter l'accès aux bières tipsy et essayer d'éviter un maximum qu'ils aient dans les buvettes de la Cronenbourg, et encore je dis Cronenbourg, mais sans citer aucun gros revendeur, mais c'est même parfois des bières de marques inconnues, industrielles, d'un pays étranger, à des coûts défiant toute concurrence. Donc il y a aussi cette idée que il faut que la bière soit accessible pour tout le monde, mais aussi en direct, quoi.
Ouais, oui, puis de s'offrir une visibilité auprès des gens, quoi.
Puis y a aussi cette idée de un retour qu'on a beaucoup, c'est j'aime pas la bière artisanale, ou tu vois. Ouais. Alors, c'est vu comme étant soit plus amer, soit plus goûtu en général, de manière générale. Et ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir proposer à des assos une bière qui est très peintable,
ouais,
mais qui est fait localement, quoi. C'est pas parce que t'es une brasserie artisanale que forcément t'es obligé d'avoir de l'amertume pas possible, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup tu peux pousser un peu le truc sur... souvent on dit que les pils, c'est les bières les plus difficiles à faire parce que t'as pas de goût prononcé derrière lequel te cacher. Dès que t'as un défaut, ça se remarque directement, quoi.
Okay, ouais.
Donc c'est intéressant en termes de process aussi.
Et puis le fait de l'avoir en permanent fait que...
Et après,
le côté incertitude j'ai l'impression que les gens qui disent j'aime pas la bière artisanale, c'est aussi parce qu'ils savent pas trop sur quoi ils vont tomber. Et en fait, peut-être qu'au bout de un certain temps, avoir habitué les gens à toujours les mêmes bières, peut-être qu'ils retrouvent cette espèce de sécurité de
ouais.
J'aime bien aller vers les industriels parce que je sais que ça va être toujours la même chose. Et...
Ouais, la répétabilité de la bière, c'est un vrai sujet aussi en artisanal. Et c'est un défi aussi technique qui est hyper intéressant.
Et donc, et toucher plus de monde aussi, c'est une stratégie dans...
Ouais, en direct, vraiment, ouais. Créer plus de liens directs avec la clientèle locale.
Et démarcher aussi d'autres revendeurs plus loin.
Alors, oui, l'idée c'est quand même, on s'est fixé d'être vraiment bien présent dans le Morvan.
Ouais. Je veux dire plus loin que Brassy, mais toujours dans la région, quoi.
C'est ça, mais pourquoi pas, c'est sûr, aller aussi un peu plus loin sur Dijon, sur Auxerre, sur Sens, sur Nevers. Il y a déjà une petite présence, mais qui n'est pas non plus régulière, récurrente. Il y a eu un gros boulot de démarchage à un moment, et en fait, j'ai l'impression d'avoir fait 10 pas en arrière quand je me suis retrouvé tout seul, tu vois. Et là, c'est cool de revenir là-dessus et de dire ok, coucou, c'était moi il y a un an, et là c'est nous maintenant, quoi.
Ouais.
Et ça va être la grosse vague qui va engloutir.
Et puis avec des moyens de production qu'on a augmenté, et donc probablement plus de régularité dans la, enfin plus de disponibilité.
Plus de disponibilité, je l'espère. Plus de une meilleure gestion des stocks et tout ça. Des produits mieux réfléchis qui vont mieux à chaque type de clientèle, sans pour autant trop s'éparpiller non plus, parce que c'est ce qui a pu faire peur à la clientèle locale au début. T'as 15 bières, tu sais pas, en plus j'avais pris le parti de dire non, il faut pas dire c'est une blonde, c'est une blanche, c'est une brune. Je suis en train de revenir un peu sur ce truc-là, tu vois.
Ouais.
C'est toujours pas marqué sur les bouteilles, mais par contre, dans un discours de vulgarisation de ce que c'est que les bières qui sont à vendre, au final, c'est hyper rassurant de dire à quelqu'un que ça, c'est une bière blonde, une bière ambrée ou une bière brune. Et il y a un moment, faut recommencer, faut reprendre les bases, et ça sert à rien de tout de suite vouloir mettre une barrière et faire un cours magistral de « alors non, ici, on est sur une Berliner Weiss ». Et en fait, t'as déjà perdu les gens.
C'est, ouais, parce que dans les faits, quand tu commences à parler comme ça, il y a des gens qui veulent juste une bière, tu vois.
Ouais.
Et
ils ont pas envie d'avoir un cours magistral sur l'histoire des styles depuis 1815.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu bois d'habitude de la blanche,
de la même façon que toi qui vas chez ton boulanger, t'as pas envie qu'il te fasse l'histoire. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, tout le monde n'a pas envie d'avoir l'histoire du pétrissage depuis le 18e siècle. Quoi.
C'est clair. Donc voilà, mais le fait d'avoir, c'est plus une réponse à comment toucher aussi plus de gens en direct et en locaux, c'est un projet depuis longtemps, c'est toi qui l'amènes là, c'est la sainte caravane.
La remorque,
la remorque, pas pareil. Oui.
Ouais, caravane. Bah ça, l'idée, c'est de pouvoir aller, c'est ce qui est bien avec la taille de la brasserie, c'est que ça a du sens encore de nous se déplacer dans des événements et dans des foires, des marchés. Et quand t'es plus gros, c'est pas le cas, tu vois.
Ouais.
Donc nous, l'intérêt qu'on a, c'est de pouvoir bouger un peu, faire du service au verre en direct. Et là, forcément, bah, les marges sont meilleures, donc ça justifie aussi ce truc-là. Mmh. Et puis derrière, on peut faire de la vente de bouteilles canettes. Et ça, c'est cool parce que vraiment, t'as un contact direct avec,
avec
les gens, quoi. Enfin, puis ça rejoint un peu. Pourquoi tu. Ça sert à quoi ta brasserie, quoi? Est-ce que tu veux juste faire du volume et vendre en supermarché, ou est-ce que tu veux faire partie d'événements, tu vois?
Partager des moments avec des gens aussi. Ouais. C'est un peu ça, la bière aussi, c'est ce côté. Ça regroupe, ça réunit des gens autour d'un produit, et y a ce contact direct qui est assez cool. C'est un contact que j'avais essayé d'avoir aussi sur Paris, en allant beaucoup dans les caves faire des dégustations, rencontrer. Mais en fait, c'est tout aussi intéressant et enrichissant de le faire ici, parce qu'il y a 1000 événements différents, 1000 types de personnes différentes qui sont à des stades totalement différents de leur connaissance de la bière ou pas,
et de plein d'autres choses.
Et de plein d'autres choses.
On rencontre.
Ah ouais, et j'apprends beaucoup plus d'ailleurs ici en général, parce que t'as des gens qui sont spécialisés sur des sujets dont toi tu n'as aucune idée. Tu parlais des lapins. T'as pas appris un truc sur les lapins la dernière fois où t'étais.
Ouais, ça c'est un peu loin de la bière, mais t'as énormément de distillateurs ici, et t'as beaucoup de gens qui connaissent des procédés qui sont proches de la brasserie. Quoi. Et en plus, on est en Bourgogne, donc t'as beaucoup de vignerons. Et t'as plein de gens qui s'intéressent à fond à ce qui pousse dans la nature, et ça c'est trop bien, parce qu'il y a plein de choses à connaître, quoi.
Ouais.
Et ça recoupe un peu ce qu'on fait nous, et donc l'idée aussi d'être en local, c'est de pouvoir après peut-être travailler avec ces gens-là.
Ouais,
c'est vrai que c'est un truc aussi qu'on remarque dès maintenant, en reprenant un peu le rythme de ces marchés et tout ça, c'est l'échange humain que tu as dans ces événements-là t'apporte souvent d'autres opportunités, que ce soit un autre événement, soit collaborer sur un autre projet, soit plein d'autres trucs comme ça. Mais cette petite caravane, en tout cas, cette petite remorque, comme tu dis, donc c'est qu'on en parle un peu, c'est une remorque qui est pas très grande, qui ressemble à une petite soucoupe volante.
Ouais, là, on a un look un peu bizarre avec des portes qui s'ouvrent en aile de.
Ah ouais,
ça a un peu style DeLorean chelou, et du coup ça ressemble à rien, mais c'est marrant. Et
il y a 4 decks
dedans. J'ai fait 2-3, faire vite fait quelques petits travaux à l'intérieur, installer des becs, et puis y a un gros froid, donc il y a tout en fait. Tu mets tes fûts dedans, tu les branches, et t'as 4 boissons en pression. Et ça c'est plutôt cool, parce que t'arrives sur un marché, t'es prêt en... Alors, il faut 20 à 30 minutes pour que le groupe froid se mette en route, quoi. Mais tu fermes ton truc, tu pars et c'est fini, quoi.
Ouais.
Enfin, en termes de travail, en tout cas, le soir même, c'est pas grand-chose. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'un marché, c'est quand même... en faire beaucoup, c'est quand même un peu fatigant.
Ouais. Et l'autre truc assez cool dans ce schéma-là, c'est qu'au final, comme c'est une remorque... t'es au même niveau que les gens. T'es pas au-dessus dans ta baraque à frites ou...
Ouais, t'es pas dedans la remorque.
Ah oui.
Et en fait, du coup, tu gardes ce contact hyper proche. Et en fait, t'es encore avec tes clients, tu vois, tu peux continuer à discuter. Il n'y a pas ce truc de... le mec, il est en bas, il se casse le cou en te regardant. Et du coup, c'est juste une commande et il part. Il peut rester
oui,
avec toi.
Oui, profiter pour discuter. Et
ouais, t'es au même niveau que les gens. Et humainement, je trouve ça assez cool, ce côté-là. Donc en tout cas, ça va nous permettre de faire plus d'événements locaux et plus de ventes directes, au-delà d'avoir des horaires d'ouverture de boutique et d'avoir plus de clients pro locaux. Voilà, c'est un peu la stratégie de réinvestissement du local.
Ça, c'est chouette, ouais, le truc de la caravane.
Du Morvan.
Du pays du Morvan. Non, je suis assez fan de l'idée de la caravane, quoi. Puis le truc de faire des marchés, des événements et tout, tu croises des gens qui sont disponibles, qui ont du temps. Mm. Enfin, je trouve, en plus du côté diversité que t'as pas forcément à Paris, dans les caves, etc., où t'es quand même amené à rencontrer un peu toujours les mêmes gens. Là, les gens, ils sont pas là pour toi. Ils sont là pour faire leur marché, donc potentiellement il y a plein de gens différents et ils ont du temps, quoi. C'est-à-dire que tu peux te poser, c'est pas tiens, je vais prendre ma bière et je me casse, et finalement le contact il est quand même assez...
Et au final, t'es le mieux placé pour vendre ton produit, donc tu peux vraiment parler dans tous les sens, répondre à toutes les questions.
Et ça c'est cool, enfin, tu vois, moi en tant qu'amateur de bière, Quand quelqu'un me vend la bière et que c'est lui qui l'a faite, ou c'est lui qui est brasseur ou qui connaît vraiment, bah t'as une plus-value. C'est comme quand tu parles à un vigneron.
Ouais.
Tu vois, il va pouvoir te parler de son vin, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est ce qui est cool, parce que nous, on est deux, on va être très proches
de la
prod, quoi. Donc forcément, ouais. On saura...
Et il faut se dire que tout ce boulot-là, entre guillemets, c'est pas juste une vente en direct, c'est aussi quelqu'un qui, du coup, bah, quand il va se retrouver chez un de tes revendeurs, on y fait « Ah mais ouais, mais je connais en plus le brasseur. Ah, celle-là, je sais, il m'a raconté une anecdote dessus. » Et du coup, il va l'acheter chez son caviste, à l'épicerie, au machin. Parce que t'as aussi fait un boulot avant de vente directe, tu vois.
Ouais. Donc, et puis de pédagogie aussi, il y a un truc où quand t'es face au brasseur, tu vas pas juste être chez toi et te dire « Ah ouais, celle-là, je l'aime pas. » Au moins, on va t'expliquer « Ah bah tiens, pourquoi c'est trop amer, c'est machin. » Puis on va te dire « Bah voilà, c'est mais ça, c'est un style particulier. » Au moins, tu vas... comprendre un peu ce qui te plaît pas dans cette bière, et puis tu vas être probablement aussi un peu plus indulgent, ou au moins avoir le pourquoi du comment, de plutôt que t'es chez toi et tu dis bon bah celle-là je la reprendrai plus, et t'as pas l'espèce de contrepoint de quelqu'un qui va t'expliquer ben voilà c'est dû à ça, faire de la pédagogie, quoi.
Et c'est un peu l'ADN de Tipsip, avec le côté tips conseil, et du coup c'est cool de le garder, c'est cool de l'avoir, et en même temps j'ai l'impression que c'est quand même une tendance aussi globale de revenir un peu plus aux sources. Il y a pas mal de brasseries qui se sont dit tiens merde, je vends pas autour de chez moi, quoi, et c'est con, et du coup ça a vachement de sens de le faire, et donc voilà, ça fait partie de la nouvelle stratégie.
Et ben c'est cool, mais c'est pas tout,
non, parce que on aime le fun
à côté de ça, voilà. Il y a une gamme permanente, mais à côté de ça, ce qu'on essaierait de
parler, deuxième truc, c'est innover et geeker.
Ouais.
Nom de code, Tipsip 3000.
Tipsip 3000, j'aime beaucoup.
Voilà.
Ouais, c'est là où vous allez un peu plus vous amuser avec les recettes et essayer des trucs peut-être qui vous ressemblent vraiment.
Ouais, qu'on aime boire aussi, et aller faire de la petite expérience. Donc ça reste la série canette, la série éphémère.
Et geeker, c'est genre aller plus loin dans les idées, tu vois, être peut-être un peu plus fou sur certains trucs, mais ça, pour moi ça veut aussi dire creuser un peu, tu vois, geeker, aller à fond dans les process, quoi.
Oui,
tu vois,
oui, geeker la théorie, enfin
geeker la théorie et geeker pour faire
l'expérience.
Tu peux te pousser à fond pour faire la meilleure bière possible, ou alors tu peux faire un truc complètement what the fuck, et l'idée c'est de faire un peu des deux, quoi.
Et du coup, ça, c'est ce qui permet aussi de rester innovant, de rester dans l'apprentissage. Et je pense que ça, c'est un truc qui nous motive tous les deux beaucoup, c'est d'apprendre des trucs en faisant. Et du coup, bah, aller plus loin dans tout ce qui est double IPA, ressortir de la NEIPA, continuer à faire des Berliner Weiss fruités et tout ça. Et, oui. Et pourquoi pas aller encore dans des trucs comme la poivre avec des ours, la bière piment fleur vanille. Ouais. C'est ces trucs-là dont au final on n'a pas tant parlé que ça en podcast.
Parce que
c'était des trucs que t'as fait un peu one shot. Et...
Oui, c'est ça. Et voilà. Peut-être que tu l'as un peu moins développé aussi sur les derniers mois.
Ouais. Mais c'est sûr. Mais du coup, aller dans des recettes.
Ouais. Mais des choses dont on a vu en plus que ça pouvait plaire aussi localement, parce que la framboise, par exemple, c'est une Berliner Weisse framboise, c'est quand même un énorme banger ici, quoi. Alors que la bière acide.
Ouais. Alors je dirais pas que c'est un énorme banger, mais c'est vrai que il y a.
J'ai l'impression que les gens la connaissent en tout cas. Ouais. La framboise. Moi, je vais voir la framboise.
La framboise, elle est là depuis longtemps. Elle vient, elle repart et tout. Ces bières-là peuvent marcher aussi en local. D'ailleurs, on ne s'est pas fermé la porte aux bières éphémères bouteilles pour le local.
Ouais. Okay. Ouais. En fait, on s'est dit bière éphémère en canette, bière permanente en bouteille et peut-être une gamme saisonnière. Tu vois, peut-être en bouteille aussi, quoi. Ouais. Voir un peu comment on...
Là on c'est marrant, donc là je reviens sur un peu ce qui s'était passé l'an dernier, mais l'an dernier il y a eu de la rue Berliner, elle est revenue plusieurs fois puisque c'était la rhubarbe du jardin et que c'était un peu l'idée, le concept du truc, avec ces niveaux-là de volume, peut-être que ça ne sera plus la rhubarbe du jardin si ça revient, ou alors rhubarbe et autre chose, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, elle était en bouteille au début, elle est passée en canette et elle est revenue en bouteille. Et en fait, le passage à la canette pour celle-là était pas genre si intéressant que ça, parce que il y a une demande en local et il y avait pas plus de besoin que ça de la mettre en canette, de rendre le truc geek. Genre en fait, les Berliner Weiss, les sour aux fruits, ça marche aussi super bien. C'est bizarre.
C'est pas que du geek.
C'est pas que du geek, ouais. Faut être un peu plus ouvert d'esprit. Il y en a plein qui vont dire « Ah, mais c'est pas de la bière, ça. Déjà, il y a des fruits dedans. »
Ouais, ou d'autres qui vont dire « Ah, bah c'est pas la crique que j'achète dans le supermarché. Voilà, »
C'est ça.
Faut expliquer que c'est pas sucré, quoi.
C'est clair. Mais en tout cas, il y aura cette gamme de canettes qui sera full éphémère. Et ce côté houblonné, ce côté acidulé, c'est stout, c'est des styles qu'on aime bien, donc on va pas arrêter d'en faire, quoi. Donc ça, c'est le premier volet de innover et geeker. Le deuxième volet, c'est augmenter les collabs, en faire un peu plus, et aussi des partenariats. Okay. C'est toujours cool, c'est des moments où tu apprends, c'est des moments de partage, c'est des moments où tu te retrouves entre confrères, brasseurs, ou entre gens d'autres milieux aussi, ça c'est assez intéressant. Et du coup, toujours dans ce côté apprentissage et hyper enrichissant de rencontrer des gens et de bosser sur un projet en commun. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment ce côté fit and fun, comme sur YouTube. Genre tu rencontres d'autres mecs et t'apprends plein de trucs. Et c'est des journées hyper sympas. Et c'est des bons souvenirs. Donc,
un peu comme t'as fait pour le sapin, le chocolat, le café.
Ouais,
tout
donc ça.
Ça
c'était avec des partenariats plutôt. Mais là, maintenant qu'on a un outil qui permet aussi d'accueillir d'autres brasseurs.
Ouais.
De manière un peu plus...
Oui, que vous n'avez pas trop fait avant, du coup...
Non, ouais, c'était compliqué. Bon, déjà, on est dans le Morvan, donc il faut venir jusqu'à nous. Mais par contre, c'était un peu plus difficile. Bah, déjà, quand on avait le Brewtools, on était là, bah, si tu veux, viens faire une collab chez nous, mais ça sera 150 litres, tu vois. maintenant, ouais, c'est plus cool. Enfin, on est moins stressé du matériel, tu vois. Donc voilà, on a envie d'inviter aussi d'autres brasseurs à venir faire des bières en collab avec nous. Voilà, je sais pas si...
Ça inclut le brassage à façon ou...
Oh là 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 là, il passe les étapes. Pardon, J'allais en parler. Peut-être, restez jusqu'à la fin. On vous donnera des prix.
J'aurais dû lire les notes jusqu'au bout.
Non, par contre, dans le volet innovation, il y a encore un point assez intéressant. On vous a déjà un peu parlé du trou hopping.
Je crois, ouais.
Cette nouvelle technologie venue de l'espace, censée révolutionner le monde brassicole. Non, le trou hopping, donc il y en a eu pour l'instant que deux essais. Un qui était dans une pale ale qui a servi à Château-Perché. Donc où il y a eu finalement peu de risques pris puisque tout est parti en festival et donc le test était plus on va dire en back office, en mode bon comment ça se gère d'un point de vue brassage et qu'est-ce que ça donne comme goût et est-ce que vraiment c'est plus avantageux en cuve.
Ouais.
Spoiler, oui. et c'était très cool, les retours étaient plutôt bons. Cette Hoppy Pale Ale était pour beaucoup plus houblonné que l'IPA qui était vendu
ouais,
là-bas.
Ouais.
Donc c'est plutôt pari réussi, quoi. Mais ça n'a pas été confronté à des geeks spécialistes du DDH thiolisé et de tous ces trucs. Donc ça peut être intéressant de creuser le sujet. L'autre true hopping était utilisé dans la Hopwater, la Pure Talus.
Ah oui.
Et donc c'est une techno qui nous semble assez intéressante, qui est encore peu connue.
Tu veux pas faire un rappel d'ailleurs ?
Si. Le trou hopping, c'est du coup une machine qui ressemble à une sorte de four avec un truc pour distiller.
C'est un alambic.
C'est un alambic.
Un micro-ondes.
Ouais, c'est ça. Et donc t'as un réservoir dans lequel tu mets ton houblon et tu fais de l'extrait de terpène de houblon, donc tout ce qui est arôme volatile. Et donc tu vas récupérer tes terpènes de houblon qui sont difficiles à choper et que tu utilises normalement, que tu récupères normalement pendant les dry up. Là tu les récupères à part en amont. Tu les mets dans une petite fiole, tu récupères quelques gouttes. Donc un kilo, ça représente quelques gouttes que tu peux mettre après dans de l'alcool pour diluer ça et en avoir enfin mieux le gérer, mieux le conserver, etc. Et ensuite c'est plein d'autres avantages, le fait d'avoir ça ton houblon qui passe par cette machine, ça te permet de récupérer je crois 99% des terpènes, là où quand tu fais un dry hop t'en récupères beaucoup moins, il y a toujours une partie qui reste dans la plante.
Ouais.
Forcément ça prend moins de volume dans ton fermenteur, donc tu peux produire plus de bière avec un fermenteur équivalent. Tu as besoin de moins de houblon, du coup moins de quantité de matière pour mettre l'équivalent en dry hop, tu vois. Donc en fait il y a plein d'étapes où tu gagnes du temps et de l'argent théoriquement et de la place. T'as besoin de moins de temps aussi parce que t'as pas à attendre les 2 jours, 3 jours de dry hop, les purges, etc.
Ouais.
Tu mets tes gouttes.
Et puis t'as pas de déchets,
ouais. Enfin, pas dans ta cuve, quoi.
Ouais.
Ils sont ailleurs. Donc ouais, c'est une techno qui a gagné un prix, là, à Nancy.
Au salon du brasseur,
ouais. Le prix de l'innovation. Y a pas mal de grosses brasseries qui s'y intéressent et je pense que y a vraiment un sujet là-dessus. Les machines sont pas données on fait un partenariat avec eux en fait et donc on va un peu tester tout ça. Tout n'est pas encore je pense qu'on fera un épisode spécial sur ce sujet-là, sur le trou hopping, même peut-être plusieurs, mais on va un peu en aventurier défricher tout ça et regarder ce que ça peut donner. En tout cas ça fait partie de ce côté, ce volet innovation, et c'est un petit joujou en plus qui va nous permettre de faire encore plein de trucs sympas et
ouais, un truc à explorer encore
et qui fonctionne avec le houblon et aussi potentiellement avec plein d'autres herbes aromatiques.
Ouais.
Donc il y a de quoi
tout ce qu'il y a des terpènes volatiles. Faut savoir que c'est une machine qui à la base a été développée pour le cannabis et l'extrait de terpènes de cannabis. Ils se sont rendus compte que ça marchait aussi pour le houblon et qu'il y avait un usage potentiel hyper important et intéressant pour les brasseurs. Donc y a la possibilité de mettre autre chose que du houblon et ça peut être marrant. Et c'est une super transition pour l'autre volet de l'innovation et du geekage, c'est le soft.
Ouais, ça pour le coup on en a déjà pas mal parlé.
Ouais.
Ça, ça fait un moment que ça rôde et en plus c'est un truc qui a l'air de vous tenter vraiment tous les deux. Enfin.
Carrément.
Qui était déjà des idées que vous aviez.
Ouais, c'est pour le coup ça, c'est complètement différent de travailler un soft qu'une bière.
Ouais.
Tu fais ton test, enfin c'est un travail de labo quoi. Tu peux faire tes tests directement, t'as un retour immédiat. Mm. Pour un brasseur c'est un kiff quand même.
Ouais.
Plutôt que d'attendre à moi et de dire ah non, j'aurais dû mettre un peu plus de ça, un peu ouais. plus de ça.
Ouais, et il y a un peu plus de maîtrise du coup du résultat final. Est-ce que tu te sens un peu plus en.
Carrément, t'as pas de fermentation. Donc, enfin, nous, les softs qu'on veut faire, en tout cas, il n'y a pas de fermentation pour l'instant.
Il y a moins d'aléatoire. Quoi. Tu mets ça donne ça. Quoi.
Zéro aléatoire.
Ouais.
Donc, tu peux creuser assez rapidement tes dosages, etc. La qualité des ingrédients que tu mets dedans. Et puis. Et puis après, les softs, c'est hyper vaste.
Ouais. Okay, ouais, c'est un monde entier. Vous connaissez ma passion pour le café, je pense, maintenant. plein de plantes à infuser. Il y a, en fait, ouais, un monde entier à explorer. Et le craft, le soft craft, c'est pas encore très, très... Ça vient, tu vois. On voit de plus en plus de caves s'ouvrir sans alcool. Il y a une demande aussi des gens qui ne veulent pas forcément tout le temps picoler. Le fait de vivre maintenant un peu plus à la campagne et d'avoir le permis, je me rends compte aussi qu'il y a des fois où tu dois rentrer chez toi, tout simplement. Et donc, c'est relou de pas pouvoir autant profiter... avec des softs qu'avec de l'alcool. Il y a une diversité dans la bière qui est fabuleuse. Mmh. Je pense qu'on peut avoir tout autant de diversité, si ce n'est plus, avec le soft. Et du coup, c'est un monde entier encore pour...
On peut geeker le soft.
Ouais, carrément.
Ouais.
Et c'est en train de popper d'un peu partout. Tout le monde... Enfin, il y a plein de micro-tests qui sont faits un peu partout et tout. Et voilà, je pense que nous, en tout cas, on a envie de faire partie de cette nouveauté là qui arrive, et ça nous travaille depuis tous les deux depuis un moment, je pense. Donc tous les champs des possibles sont ouverts, quoi.
Et en plus, le trop hopping dont on parlait juste avant peut carrément aider à développer les nouvelles choses.
Carrément à 1000%. Et là, en plus, le fait d'être dans le Morvan, on l'a un peu dit tout à l'heure, nous amène à rencontrer des gens qui sont hyper intéressants dans tout un tas de domaines, et notamment sur la cueillette des plantes, des racines qu'on connaissait pas, des fleurs, des feuilles, tout un autre univers encore qui est là, et qui ne demande qu'à s'associer à du liquide.
Ouais.
Que ce soit du soft ou du pas soft.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'on nous présente des trucs, tu sens le machin, tu te dis mais je veux ça dans une Imperial Stout, quoi.
Ouais.
Et ça ne se fait pas, quoi. Ça, c'est cool.
On a l'impression de retomber un peu toujours sur les mêmes choses, en fait, dans ce qui se fait, bah, que ce soit en bière et en soft.
Ouais. Ouais. Alors qu'il y a plein de possibilités, et puis ça fait un peu, voilà, t'as un ancrage aussi, t'es du Morvan, mais tu utilises des trucs du Morvan, quoi.
Ouais. C'est encore un
truc supplémentaire.
C'est clair. Et c'est un peu venu des premiers échanges aussi avec Brendan, avec les bières au sapin, où d'un coup, en fait, tu te rends compte que le sapin, pourtant c'est tout le monde connaît le sapin, tu vois, mais tu vois que tu peux en faire des choses assez intéressantes. La petite trilogie avec les trois sapins, Nobilis, Épicéa et Norman, c'était déjà un premier truc de ah ouais, avec un truc qui pousse vraiment à côté, que tu peux cueillir, tu peux en faire des choses assez intéressantes.
Ouais.
Alors là, tu mets en plus de ça une machine.
Ouais.
Comment ?
Et assez inédite en plus de ça.
Assez inédite, ouais. Tu mets en plus de ça une machine qui va améliorer l'extraction de l'aromatique, alors vraiment des terpènes, donc ça marchera pas avec tout. Mais et en plus, le fait qu'on peut faire des softs avec ça, c'est trop bien. Genre vraiment, c'est là pour geeker et innover, on a tout ce qu'il faut, quoi.
Ouais. La Pure Talus, c'était du coup un peu un premier pas dans ce...
Ouais, c'était un premier pas, Upwater en plus un peu... Alors c'était en même temps le plus simple et en même temps c'est pas connu, tu vois, mais je suis assez content du fait qu'en local, tu vois, la Upwater plaît pas mal aussi. Donc à voir aussi comment innover encore là-dessus, est-ce qu'il faut avoir une gamme permanente de soft, tout ça, machin, ça on n'a pas défini, là faut juste défricher. Mais en tout cas, il faut s'amuser là-dessus et y a trop de choses à faire, quoi. Donc, je pense qu'on va lancer des petites bouteilles à droite à gauche. Ouais. Il faut se cadrer.
C'est le plus dur, ça, ouais. Bah, c'est ça, ouais. Ouais, parce que le but, c'est de lancer des choses, mais de les maîtriser aussi, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est en cours. Enfin, il y a déjà plusieurs tests de soda qui ont été faits. Il y a des sodas qui sont faits aussi en partenariat en local, en plus, qui sont en cours aussi. Donc, tu sens qu'il y a de l'attrait. C'est pas que nous dans notre coin, tu vois. Il y a un attrait économique aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Ouais.
Et si on parle sur tout cet aspect-là, donc. L'idée, c'est d'écouler toujours ces bières-là sur des épiceries, des caves un peu spécialisées aussi, des bars geeks aussi. Donc ça ira un peu plus sur Paris, toute cette série d'éphémères, de canettes, etc. Mais aussi, l'idée, c'est de refaire un peu le site internet et notamment repenser les packs. À l'heure où le podcast sort, je pense que vous pourrez faire un tour sur le site internet. On mettra tous les liens dans la description. Mais normalement, on va essayer de penser tout ça pour que les expéditions soient plus simples. On a aussi un peu cadré les expéditions, on quitte Mondial Relais et maintenant ça sera livré directement chez vous. Je peux pas vous annoncer encore les prix et tout ça, mais ça sera optimisé pour que les coûts soient le moins élevés possible pour nous et pour vous, et en tout cas par bière, par pack constitué, quoi.
Ouais.
Donc il y a de grandes chances pour qu'il y ait plus de bière à acheter à l'unité, parce que ça donnait des packs trop bizarres, avec des frais d'expédition qui étaient parfois énormes, de la casse, enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, le site internet, on a envie de le booster. On sent que c'est un truc hyper cool sur lequel on peut vraiment s'appuyer, parce que il y a plein de gens qui ont envie de goûter ce qu'on fait et tout ça. On n'a pas envie, pour l'instant, de passer par un distrib et d'être présent au national. Clairement, c'est pas du tout l'objectif. Par contre, ça serait dommage de priver les gens de pouvoir goûter des trucs parce qu'ils sont pas dans le Morvan ou pas à Paris. Ouais. Et du coup, avoir un site un peu béton avec des packs bien pensés qui coûtent le moins cher possible pour tout le monde et qui arrivent en un seul morceau, ça, c'est intéressant et ça fait partie de ce côté... bah ouais, on va geeker des trucs et faut que tout le monde puisse y avoir accès, quoi. C'est cool.
Est-ce que ce changement de mode de distribution, il est un peu conditionné aussi à une augmentation du volume? Est-ce que c'est parce que vous avez une plus grande capacité de brassage que c'est possible?
Ouais, bah après je pense que du coup on aura plus de références disponibles à chaque instant, quoi.
Ouais, il y a de ça. Alors c'est sûr que si on était resté sur du 150 litres, on pourrait pas avoir des coûts négociés, et je pense qu'on fera un épisode spécial sur comment on vend sur internet et comment on a géré le truc. Par contre, c'est pas parce que on fait plus de volume qu'on veut plus pousser internet, sachant que je pense pas que ça soit le moyen de vendre ces bières le plus simple. Clairement, ça prend énormément de temps de préparer des colis, ça représente beaucoup d'argent. Finalement, on gagne quasiment autant que si on passait par un revendeur, parce qu'avec tous les frais qu'il y a de carton, de double cannelure, de croisillon, de les frais aussi d'expédition, tout simplement, bah, ça coûte assez cher. Donc, c'est pas aussi rentable que de la vente directe. Ça l'est peut-être quand même un peu plus que de passer par un revendeur. Mais par contre, on trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir envoyer au maximum de monde et de ne pas se limiter géographiquement au Morvan et Paris, quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Et la volonté de ne pas passer par un distributeur pour l'instant. Il y a déjà des épisodes, notamment Milecto, Super Potion, qui en parlent. Distrib ou pas distrib, guéguerre entre les brasseurs et les distributeurs. Pour l'instant, moi, j'ai pas rencontré de distrib qui m'ont vendu du rêve. Au contraire, après, si vous êtes un petit distrib indépendant et que vous avez un projet très cool, clairement, je suis pas fermé et je suis pas anti-distrib, mais tout ce qu'on peut faire nous-mêmes dans la vente, je trouve que bah, ça a plus d'intérêt de le faire soi-même, ne serait-ce que pour maîtriser où vont tes bières, maîtriser quand même tes coûts, parce que ça fait un intermédiaire en moins,
ouais.
Et garder un contact avec tes clients, qu'ils soient pro ou client direct, c'est ça, entre guillemets, ça n'a pas de prix, et donc ouais, j'ai pas envie de payer pour ça pour l'instant.
Puis il y a une petite dimension un peu sociale
de ouf.
Enfin, ça te correspond peut-être plus aussi de pas avoir envie de... Enfin, d'avoir envie de favoriser des cavistes et des commerces locaux plutôt que...
Après, dans 2 ans, je vous dirais peut-être, bon, j'en ai marre de faire la tournée des cavistes et tout ça, et bon, maintenant, allez, on envoie tout chez un distrib et tout, mais encore une fois, j'ai pas trouvé de distrib cool qui a un projet sympa avec vraiment un truc de ouais, ça c'est exceptionnel, je te mets en avant comme ci, comme ci, comme ça, et en fait si tu passes par moi, bah ça va t'apporter ci, ci, ci et ça. Non, je vois juste qu'ils prennent 30% de marge pour faire un boulot qui, je pense, si je ne le fais pas, je perdrais quelque chose dans le sens de pourquoi je fais de la bière. Ouais.
Parce que souvent tu vas livrer un client pro et puis...
Tu parles avec lui,
et en fait, ça te débouche sur un autre truc.
Ouais, et puis en fait, c'est sympa aussi. C'est sympa. Même si la route est parfois longue, surtout sur le périph' parisien, et que des fois, t'as juste envie de péter un plomb, mais il faut rester super zen. La route dans le Morvan est nettement plus belle et agréable. Mais non, je trouve que ça nous correspond mieux.
Ouais.
Tout simplement.
Ouais.
Donc voilà. Je préfère qu'on s'embête un peu plus à vendre sur internet plutôt qu'à passer par un distrib qui va nous référencer dans des caves qu'on connaît pas et tu sais pas comment c'est amené, tu sais pas dans quelles conditions, ouais, à quel prix, pourquoi.
Donc non mais c'est bien, donc c'est axé ouais, clients locaux, vente directe, site internet et du fût, du fût, du fût.
Et du fût, du fût, du fût, du volume, partie 3, yes. Carrément, bah le fût, ouais, c'est obligatoire maintenant. Avant, il n'y en avait pas tant que ça, parce que volume trop petit, donc pas forcément intéressant de faire du fût. On en a toujours fait, hein, mais pas, c'était vraiment minoritaire, quoi. Excepté le festival... qui du coup lui forcément était en fût, et encore on a vendu énormément de canettes sur le festival.
Oui, ce qui n'était pas prévu.
Ce qui n'était pas prévu, oui. Mais non, bah oui, forcément il faut faire du volume, donc c'est hyper intéressant de faire du fût, et surtout on a envie de démarcher des bars, chose que je n'avais pas vraiment la possibilité de faire avant, et donc du coup bah, prendre des becs.
Des bars sur Paris, tu veux dire ?
Sur Paris et dans le Morvan.
Ouais. Dans le Morvan, tu le faisais déjà un peu, mais...
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Surtout en bouteille, en fait.
Ouais.
C'était ah, bah, sinon, il y a une bière locale, et... Après, ce qui est compliqué, toujours, c'est cette histoire de contrebrasseur, et du coup, tu peux pas être partout. Mais il y a cette volonté, en tout cas, de prendre des becs... dans le coin.
Ouais. Et il y a des becs, quelques becs à prendre.
Il y a quelques becs à prendre, ouais.
C'est toujours compliqué, hein, de toute façon. Les contrebrasseurs, là, ça bloque un peu tout, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pire à Paris, quoi.
Ouais, peut-être.
Hormis Barcraft, tu vois. Soit t'es un Barcraft et t'as pas de contrebrasseur.
Ouais.
Et là, tu le dis en gros, quoi. Ouais. C'est ton argument de vente.
C'est ça.
Soit par défaut, t'en as un, quoi.
Ouais. Et ce qui est un peu problématique, c'est que j'ai le sentiment que de plus en plus, maintenant, t'as des. C'est pas des contrats brasseurs, mais c'est un contrat entre une brasserie artisanale un peu grosse et un bar.
Ou un groupement, ouais.
Ou un groupement. Et en fait, bah, d'un coup, le mec, il se retrouve lié à une brasserie et il peut pas trop changer parce que les mecs ont quand même payé à Tyrus, quoi.
Oui, bah oui, oui. Ça marche très bien, ça.
Et pour ça, les rachats de brasseries artisanales, ça a quand même un impact fort sur les contrebrasseurs parce que du coup, ils sont capables de proposer 4 ou 5 marques différentes, voire beaucoup plus, des trucs un peu craft. Donc, c'est vraiment un problème. Et on n'en vient pas à bout, tu vois. Il y a 3-4 ans, je me disais, bon, les brasseries artisanales vont se révolter, on va finir par trouver que c'est de la distorsion de concurrence, concurrence déloyale, quoi. Et non, en fait, c'est tout l'inverse. Les brasseries artisanales se montent en groupement et font elles-mêmes leur contrat brasseur.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
On n'en est pas sorti de ce truc-là.
Ah non, c'est clair.
Non.
En même temps, ça marche très bien, quoi.
Pour moi, il y a un vrai sujet de concurrence déloyale, même si c'est des contrats. Ouais. Disons que tu n'as plus de... Enfin,
il n'y a plus le choix.
T'as plus le choix quand t'es engagé, vraiment.
Non, mais quand je veux dire, ça marche très bien, c'est presque trop facile, quoi. C'est, effectivement,
ouais, bon, après, ça doit leur coûter une blinde, hein, je pense, aux grosses brasseries.
C'est sûr.
J'imagine que c'est pas tout blanc, tout noir. Mais en attendant, quand même, pour les petites brasseries, c'est compliqué. Quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Ça, c'est un vrai sujet.
Mais il y a quand même des becs à prendre et une offre, en tout cas, à proposer, tu vois. Ça rejoint un peu cette partie-là, réinvestir le local. C'est à partir du moment où on a une gamme permanente aussi en fût, tu peux beaucoup plus jouer là-dessus sur justement l'événementiel, les bars locaux, les restaurants. Tu peux être la bière du moment, tu vois. Tu peux aussi imaginer des trucs où t'es pas. C'est sûr que tu vas pas remplacer Météor. Mmh. Ça, faut pas se se voiler la face, mais en tout cas, il y a des choses à faire et du fût.
Il y aurait quoi dans ces fûts d'ailleurs? Vous avez déjà une petite idée de ce qu'il faudrait mettre dedans pour que ça marche?
Du classique, clairement, beaucoup de petites soifs. Ça, c'est déjà la demande actuelle. Hein. C'est en fût, alors j'ai pas de stats précises, mais je dirais à la louche que c'est 80% de la demande de fût, c'est de la petite soif.
Mmh. Ouais, d'accord.
Du classique, garder de l'éphémère aussi.
Ouais.
La stratégie, elle est double aussi, hein, c'est-à-dire qu'en éphémère, ce serait plus du fût plastique, continuer sur du fût plastique pour des questions de logistique et de roulement de fût, quoi. Enfin,
ouais.
Des fûts qu'on va faire tourner beaucoup. Et ce qu'on aimerait bien, c'est passer de plus en plus sur de l'inox, en tout cas en local. Quoi.
Mm-hmm.
Pour des raisons évidentes et de coût et environnementales.
Mm.
Qui nous tiennent un peu à cœur. Et pour le coup, ça va venir petit à petit, mais on a des solutions de location, de ce genre de choses, quoi, qui nous permettront petit à petit. Au moins de pas percer des fûts plastiques quand c'est nous qui les servons.
c'est clair.
Après de retrouver une rentabilité sur des fûts parce qu'un fût plastique ça coûte cher, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais.
C'est ça. Et du coup être un peu plus compétitif sur les fûts que je pouvais l'être avant tout seul. Voilà. Sans pour autant baisser les coûts, tu vois. Enfin, genre ça sert. Il y a beaucoup de brasseries qui, je trouve, sur les fûts ont un peu pété les coûts. Spoiler, il y en a qui ont fait faillite. Mais en tout cas, voilà. Et l'autre sujet sur les fûts et le volume, c'est du coup aller chercher du festival.
Ouais.
J'ai bien aimé Château-Perché, c'était cool. Donc j'ai vu que c'était jouable et réalisable sur une commande à 50 hectos.
Avec beaucoup moins de fermenteurs.
Avec moins de fermenteurs, enfin plus mais moins gros.
Oui,
ouais, puis là, ce qui est cool, c'est que tu peux aller vendre 50 hectos sur un festival et pas te retrouver complètement à poil, quoi.
Ouais, ouais, aussi, ça, c'est important.
Et puis, de l'autre côté, il va bien falloir les vider, ces fermenteurs. Hein.
Ouais. Et non, du coup, ouais,
Et puis le fût, c'est... Quel plaisir à vider un tank de fût, quoi.
Ah, plutôt que d'embouteiller.
Ah oui, oui, ça non, ça c'est clair.
Ouais.
Ça joue aussi, quoi.
Ouais. Donc le festival, c'est cool, c'est un truc et puis j'aime bien cette ambiance de les gens sont en train de boire ta bière dans un mood où genre t'es un peu affranchi de tout stress, de tout, t'es pas genre non plus au bar en mode bon c'est ta pause dans ta semaine ou dans ta journée ou machin, là t'es vraiment dans une bulle, un cocon, t'es dans ton festival et tu bois ta bière
épouse
sans aucun souci,
sans avoir la haine de faire la queue
ça dépend quel festival,
oui, le festival est moins géré. Alors, mais disons que
les festivals ça écoule beaucoup de bières,
ouais.
Et nous en tout cas en local il y en a beaucoup, donc c'est quelque chose qu'on aimerait développer et on a la capacité de le faire, donc
si vous organisez un micro festival, appelez nous mais tu nous as posé une question, Benjamin.
Oui,
tout à l'heure.
Ça y est, merci d'être resté jusqu'au bout.
Voilà,
chers auditeurs.
La réponse, brassage à façon. Écoute, pourquoi pas.
Ouais.
Pour des petits projets et des projets, je pense intéressants et quand même, si tu veux faire une énième bière Black Beauf étiquette. Non, ça ne nous intéressera pas. Par contre, si le projet est cool, que c'est quelqu'un qui...
On y va pour les gros nichons.
Voilà, ça non. Tout de suite, pas. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, on a toujours la capacité de faire du 500 litres. Donc en fait, ça fait une grosse, grosse différence sur, sur un, comment ça s'appelle, un brassage à façon classique que tu peux, en cherchant un peu sur internet, c'est plus gros normalement, tu vois.
Ouais.
On peut faire du 20 hecto aussi, et du 10 hecto.
Sous réserve qu'il y ait encore de la place.
Sous réserve qu'il y ait de la place, que ce soit bien prévu en amont et tout ça. Et théoriquement, on peut faire bouteille, fût et canette, quoi. Aussi, ouais. C'est cool. Pas toutes les brasseries ne peuvent proposer ça. Bien sûr, ça demande de l'organisation pour tout. Faut pas faire en mode « Allô, bonjour, j'ai besoin de 500 litres la semaine prochaine. » Voilà, faut parler du projet, faut détailler tout ça, comment ça se passe. Mais on n'est pas contre. Ouais, clairement, ça sera pas notre priorité. C'est pas...
C'est s'il y a de la place, quoi.
S'il y a de la place et si le projet est cool.
Ouais, c'est cool de pouvoir le faire, d'être en position de te dire OK, comme quand tu t'es dit.
Ouais, et puis c'est comme ça que tu t'es lancé si.
Ouais, c'était une expérience trop cool.
T'as cherché Aerofab, enfin t'as cherché, t'es tombé sur Aerofab qui était ouais, bah pourquoi pas, écoute le projet est cool et j'imagine que ça doit faire plaisir de se retrouver dans la position inverse
dans la position inverse, ouais.
Tiens, allez, je vais pouvoir aussi entre guillemets rendre service et ça voilà quoi.
Mm. Voilà, ça fait pas mal hein, d'axes, de points de développement et tout ça. C'est la nouvelle strat Tipsip. Donc, encore une fois, on répète, hein, nouvelle marque, nouveau matos, nouveau brasseur, nouvelle strat.
Nouveau départ, hein, c'est...
Voilà.
Ouais.
Que de nouveautés.
C'est chouette.
Trop bien.
On va remettre, je pense, le plan de la nouvelle strat en commentaire de l'épisode, parce que ça faisait beaucoup de choses. Et puis ben d'ici là je vous souhaite d'inonder le marché hein.
Ouais, commandez sur le site hein. Il sera peut-être déjà tout neuf.
Ouais, parce que là je sais pas quand on va le diffuser l'épisode.
Ça sera chouette. Ah non, pas Ah oui, non, si.
Ouais. Alors, pas tout de suite.
On est en train de prendre un petit délai entre le temps d'enregistrement et le temps de diffusion parce que on profite de pouvoir se retrouver à trois pour enregistrer plein de choses. Mais on souhaite que d'ici là, il y ait déjà plein de bières dans les fermenteurs et un nouveau site. Et...
Carrément.
Ouais, c'est parti. Et comme on a beaucoup de choses à vous dire encore, et ben on se retrouve dans deux semaines avec plein de nouveaux sujets. À très vite.
À bientôt.
Hello?
Who let that rotten run in the dark?
What? What did you say? You son of a bitch. You just jump right into it like that.
Break
your name. Take your name and your business.